Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Quel plaisir particulier y a-t-il à renouer avec un amour de jeunesse ? D'où vient ce désir, cette impulsion parfois soudaine de rattraper le temps perdu, de revenir en arrière, de rembobiner ? C'est le deuxième épisode de cette série que Monica Sabolo a intitulé « L'amour sonne toujours deux fois » et qui parle de ça. De ce besoin qu'on peut éprouver à revivre une histoire d'amour en la corrigeant, en l'améliorant ou en la rendant tout simplement possible. Une seconde chance. Pour les amoureux transis et muets à l'époque, c'est une victoire sur le temps, un accomplissement tellement romantique. Mais pour les anciens couples qui se reforment, ce sont peut-être des amours plus traçables que les autres, comme de la viande dont on connaît la provenance et donc plus rassurante. Un mélange d'aventure et de contrôle. Ou bien est-ce l'idée d'une seconde jeunesse, d'un temps qu'on a tellement bien suspendu qu'on y gagne quelques années au passage ? On aura 5 épisodes pour y réfléchir, mais on peut déjà commencer à se poser la question. Première hypothèse, retrouver son amour de jeunesse, c'est romanesque, et ces histoires comblent notre besoin de récit, notre désir de fiction. Et ça tombe bien parce que c'est une romancière qui raconte l'histoire véridique et vérifiée d'Alice et Louis dans Les pieds sur terre, L'amour sonne toujours deux fois par Monica Sabolo.
Il faut que je vous avoue quelque chose. Les histoires d'amour secrètes me fascinent. Je les trouve intrigantes et terriblement romanesques. Car elles existent hors de la société et du quotidien, dans un monde parallèle qui nous échappe. Pour Alice et Louis, ce monde parallèle se trouve à Château-Gontier, petite ville de Mayenne, où ils se rendent le cœur battant, chaque semaine depuis 9 ans, pour leur rendez-vous clandestin. Le reste du temps, ils vivent avec leurs conjoints et enfants respectifs, à 2 heures de route l'un de l'autre. Elle à Nantes, lui au Mans. Château-Gontier se trouve exactement à mi-chemin. C'est là que nous décidons de nous retrouver, eux et moi. Ils m'emmènent dans un café où ils ont leurs habitudes. Alice est nerveuse. Elle n'a pas l'habitude de parler de leur histoire et s'achète des cigarettes. Louis n'en revient pas. Il ne l'a pas vue fumer depuis ce jour où, en 2015, ils se sont embrassés pour la première fois, sur un banc, devant la gare, comme des ados. Assis sur la banquette en face de moi, ils me font d'ailleurs penser à 2 adolescents. Ils se dévorent des yeux, ne cessent de se toucher, le bras, la cuisse, la joue. On dirait qu'ils viennent de se rencontrer. En réalité, ces deux-là se sont connus au CP, à l'âge de 6 ans. Sur la photo de classe qu'ils m'ont apportée, ils se tiennent côte à côte, debout, au premier rang. Lui porte un jogging et des baskets Adidas. Elle, une robe col Claudine, des ballerines et un chouchou dans les cheveux. Il grimace, elle sourit timidement. Je me demande à quoi ils pensent, quels sont leurs rêves. Moi, à cette époque, je portais le même genre de robe et je rêvais de Thibaut, un blond avec une mèche qui ne m'a jamais regardée. Louis n'a presque aucun souvenir de cette année de CP. Il en garde quelques images, quelques sensations, mais aucune avec Alice. Elle, en revanche, se rappelle très bien.
Je me souviens de ce petit garçon, cette petite voix fluette, aiguë pour un garçon. Pour moi, c'était pas un garçon ordinaire, parce que tous les petits garçons de l'époque, c'était plutôt des garçons qui avaient tout le temps la bougeotte en classe. Et lui, il était plutôt discret, posé. Moi, j'étais extrêmement timide, extrêmement introvertie, je parlais pas. J'étais la petite fille modèle, je faisais pas de vagues, très attentive et studieuse. Je me souviens pas d'autres petits garçons que Louis dans la classe.
Alice ne sait pas si elle était amoureuse, mais il y avait déjà quelque chose. Elle se souvient qu'il la consolait quand elle pleurait et qu'elle rougissait quand il lui adressait la parole. C'est à peu près tout. L'année suivante, Louis change d'école. Ils se perdent de vue jusqu'à leur entrée au collège.
Donc en sixième, on arrive au collège, j'ai la trouille. Nos parents avaient le droit de nous accompagner à la rentrée. Et là, l'appel de la classe. Et là, j'entends Louis, Louis le Seigneur. Et là, tout de suite, ça m'a... Je savais que c'était le petit Louis du CP. Et donc, on a été dans la même classe jusqu'en troisième. Louis, c'était le premier de la classe. Et moi, j'étais toujours la deuxième. Et j'avais ce petit challenge pour qu'il me remarque, d'essayer de le dépasser, d'avoir des bonnes notes. J'avais toujours envie de me faire remarquer par Louis. Et en fait, je crois que j'ai pas réussi.
Alice est une élève discrète qui se sent mal dans sa peau. Comme beaucoup de filles de son âge, elle veut se fondre dans la masse et pense qu'elle ne peut pas plaire. Elle se trouve un peu boulotte et pas très jolie. Elle se cache, porte des jeans trop larges et des chemises de bûcheron. Elle a des troubles du comportement alimentaire. Elle est boulimique jusqu'à ses 18 ans. Dans sa chambre, elle regarde en secret la photo qu'elle a prise lors d'un voyage scolaire en Allemagne, en classe de 3e, où Louis se tient au centre d'un groupe. Elle me montre cette photo qu'elle a gardée précieusement. Sur le cliché, les garçons sont tous habillés pareil, avec un sweat à capuche et un anorak. Ils ont le même sourire hésitant, le même air enfantin. Mais elle ne voit que lui. À cette époque, dans son lit, elle embrasse sa main en imaginant que ce sont ses lèvres. Dans ses rêves, il est son premier petit ami. Mais, de son côté, Louis ne pense pas du tout à l'amour.
Je suis encore un petit garçon qui ne pense pas à grand-chose d'autre qu'à jouer au Lego et à jouer avec ses copains. C'est les années collège d'un petit garçon, quoi. On était 3-4 garçons, même un peu plus, où on était tout le temps ensemble dans la cour de récré, où on jouait à la console, des fois chez l'un, chez l'autre, mais pas de filles, rien du tout. J'étais encore très gamin, c'est-à-dire je jouais au Lego jusqu'à que j'étais en terminale, un truc comme ça. J'étais très Lego, très petite voiture, et dans ces années-là, c'était le sport aussi. Donc je faisais beaucoup de tennis de table, tout le soir en semaine, le mercredi après-midi à l'époque, le vendredi soir. Donc c'était beaucoup de sport en fait.
Je veux savoir s'il se souvient d'Alice dans ces années-là, s'il l'avait remarquée. C'est le genre de question que j'aurais voulu poser à Lionel, dont je ramassais les mégots à l'âge de 15 ans, que j'attendais à l'arrêt du bus en faisant semblant de passer par là. Mais, comme souvent, la réponse est décevante.
J'ai pas mal de souvenirs d'elle en sport, en cours ou quoi que ce soit. C'était une relation de camarades de classe qui s'entendaient bien, en fait. On n'était pas des amis proches, on a été dans le même lycée, mais dans deux classes différentes. Et là, elle a commencé à voir ses amis et moi, les miens. Donc en fait, on se parlait presque plus. On se voyait de loin, mais on se parlait plus du tout.
Alice continue de le regarder de loin quand il passe avec sa bande de scientifiques jusqu'en terminale. Elle n'ose plus lui adresser la parole et finit par lâcher l'affaire. Elle sort avec un autre garçon, essaye d'oublier Louis. Après le bac, il disparaît de sa vie. À 19 ans, elle entreprend des études d'infirmière. Dans sa classe, elle rencontre celui qui va devenir son mari. Il est calme, posé, elle se sent en confiance à ses côtés. Elle est alors persuadée que l'homme dont elle tombera amoureuse sera l'homme de sa vie. Ils s'installent ensemble, ont une fille, se marient, ont une deuxième fille. Elle vit un amour très simple, peut-être plus amical que passionné. Lui, elle n'y songe même plus. Lui a commencé des études pour devenir technicien industriel. Sur les bancs de la fac, il rencontre celle qui deviendra sa première petite amie, une jeune fille plus extravertie, plus entreprenante que lui. À 23 ans, ils ont un enfant, se marient, achètent une maison. Ils accueillent bientôt un deuxième enfant. Je me demande si Louis était heureux alors.
Je pensais être heureux. Avec le recul, non. Je pense que j'ai tout fait pour donner l'image ce que moi j'imaginais être un bon père et un bon mari. C'est-à-dire un bon père être là pour ses enfants, jouer avec eux et tout ça. Et un bon mari, c'est être là pour sa femme, faire des tâches ménagères comme les femmes. Je suis pas du tout dans la misogynie et cette chose-là, c'est-à-dire que la parité des sexes, pour moi, c'est important, c'est-à-dire qu'un homme doit faire tout autant qu'une femme. À ce moment-là, je pensais être heureux, quasiment sûr, j'avais tout pour moi, un travail, une maison, une femme, des enfants, tout allait bien et j'essayais de donner cette image-là.
Pendant ce temps, Alice est confrontée à un drame qui va bouleverser sa vision de l'existence. Son cousin, dont elle est proche, meurt tragiquement à l'âge de 34 ans. Alice et son mari réalisent brutalement combien tout est fragile. Ils ont peur de mourir sans avoir réellement vécu. Ils décident alors de tenter le libertinage, font l'amour avec d'autres couples, parfois deux femmes, parfois deux hommes. Pour la première fois, Alice prend conscience que son corps peut plaire, qu'elle peut séduire. C'est à cette période-là qu'elle se met à repenser à Louis.
J'ai vraiment commencé à essayer de retrouver Louis après le libertinage. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été une grande passe qu'on a tous eue de vouloir avoir des nouvelles des gens avec qui on était à l'école, sur copains d'avant. Je me suis dit qui je pourrais retrouver à part mes amies filles. Pour moi, le seul garçon que je voulais retrouver, c'était Louis et j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il était devenu. Et donc j'ai cherché un petit peu, je l'ai retrouvé grâce à des photos de classe qu'il avait mis sur copain d'avant. Et puis je lui ai envoyé un message.
Mais Louis répond de façon laconique. Il dit qu'il est marié, qu'il a deux enfants. Ils parlent de leurs anciens camarades et de Linkin Park, le groupe de leur adolescence qu'ils adorent tous les deux. Et puis, plus rien. Alice le relance, sans succès. Elle en conclut qu'il s'en fout. Il a sa vie, il l'a oubliée. Elle est blessée, mais décide de passer, une nouvelle fois, à autre chose. Pourquoi fait-on les choses que l'on fait ? Pourquoi pense-t-on soudain à quelqu'un à qui l'on n'avait pas songé depuis des années ? Parfois, on n'en a aucune idée. 8 ans après leur premier échange sur copain d'avant, alors qu'il traverse une mauvaise passe, qu'il vient d'être licencié de son poste de contrôleur qualité dans une entreprise de DVD et qu'il s'interroge sur le sens de sa vie, Louis envoie un message à Alice.
J'ai repris mes photos de classe et je me suis demandé que devenaient mes anciens camarades. J'ai pris Google, Facebook et quand je suis tombé sur Alice, les articles Google me donnaient des articles comme quoi elle venait de sortir un livre. Et je suis très littéraire, donc forcément ça m'a tilté. Et je me suis dit, tiens, je vais la recontacter pour savoir ce qu'elle devient. Et c'est comme ça que ça a recommencé, une demande d'amis sur Facebook. Rapidement, on s'est mis à parler via Facebook, par écrit. On mettait des albums pour écouter la même musique en même temps. On a beaucoup écouté, par exemple, Woodkid. On a beaucoup écouté 30 Seconds to Mars de Jared Leto, des choses comme ça. On mettait le même album au même moment pour se parler, que ce soit le matin, le soir, le midi, la nuit, peu importe. Donc au début, c'était des conversations très légères. Et puis petit à petit, c'est devenu des conversations plus intimes. Notre vie intime, sexuelle. C'était très étonnant de pouvoir se sentir libre de lui parler, alors que j'étais quelqu'un de timide à la base. On s'est souvent posé la question pourquoi ? Pourquoi on a été amené à se parler et on n'a pas forcément trouvé de réponse. Et on s'est souvent dit que c'était juste une évidence.
A des papillons dans le ventre. Toutes ses émotions d'adolescente refont surface. Elle chatte tous les jours avec Louis, parfois jusqu'à 3 heures du matin. Elle n'endort plus, ne pense plus qu'à ça. Après quelques semaines d'échange, elle lui propose d'aller boire un verre. Le rendez-vous est pris pour le mardi suivant, à Château-Gontier, qu'ils ne connaissent ni l'un ni l'autre. Cette petite ville se trouve à mi-chemin entre Nantes et Le Mans. Ils ont calculé. Elle a le cœur qui bat. Enfin, elle va revoir ce garçon dont elle a tant rêvé. Mais la vie vous fait parfois de sales coups. La veille de leur retrouvaille, Alice travaille aux urgences au CHU de Nantes et s'apprête à vivre l'une des soirées les plus difficiles de son existence.
La veille, j'étais aux urgences en tant qu'infirmière et là, une journée normale où on discute par SMS et où on se dit qu'on a hâte de se retrouver et puis tout d'un coup, j'ai une urgence qui arrive. Le SAMU nous annonce un homme en état d'arrêt cardiaque. Donc on se prépare avec le médecin et l'aide-soignante. On ouvre la salle de déchocage. C'est notre quotidien en fait. On peut boire un café, rigoler, puis hop, tout de suite, en un claquement de doigts, faut qu'on soit opérationnel. C'est notre métier, c'est comme ça. Ça faisait quelques années déjà que je travaillais aux urgences, donc j'étais plus dépassée par le stress. Sauf que là, ça va pas du tout se passer comme prévu. Les pompiers arrivent et nous disent « oui, c'est monsieur machin ». Et là, moi, tout de suite, je vois le visage de l'homme qui sont en train de réanimer. Je me dis « c'est le père d'une de mes meilleures amies ». Et je dis « oui, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, c'est comme ça ». Et je dis au médecin et à l'aide-soignante avec moi, c'est le père de ma meilleure amie là, c'est le père de ma meilleure amie qui est sur la table. Donc là, j'essaie de rester extrêmement professionnelle. On y va, on fait tout ce qu'il y a à faire et malheureusement, on le sauve pas. Et donc le père de mon amie décède dans mes bras. Donc ça a été très très difficile. Et après derrière, il faut prévenir la famille. J'appelle mon ami, je lui dis « écoute, ton papa est là, il y a quelque chose de très très grave, il faut que tu viennes ». Et donc elle comprend tout de suite. En la voyant arriver dans le sas, elle me regarde et elle me dit « ça y est, il est parti ». Et je lui dis « oui, il est parti ». Donc voilà, on s'étreint et c'est un moment très très difficile. Et là, une fois que je sors du travail, première chose à laquelle je pense, c'est « il faut que je prévienne Louis ». Et donc je lui dis simplement, ça ne remet pas en cause notre rendez-vous de demain, mais la seule chose que je veux, c'est qu'avant toute chose demain, quand tu me verras, que en silence tu me prennes juste dans tes bras, j'ai juste besoin que tu me prennes dans tes bras et rien d'autre, parce que là ce que j'ai vécu, c'est vraiment une des choses les plus douloureuses de ma vie.
Après cette nuit terrible, et à l'idée de revoir Louis, Alice est fébrile. Elle doit le retrouver à 10h du matin. Après avoir déposé ses enfants à l'école, sur le parking de l'Intermarché de Château-Gontier. Le lieu du rendez-vous n'est pas vraiment romantique, mais Alice n'a aucun sens de l'orientation et veut un lieu facile à repérer. Quand elle monte dans sa voiture, elle a déjà changé 10 fois de tenue. Sur la route, elle a chaud, elle a mal au ventre, elle vérifie sans cesse son rouge à lèvres dans le rétroviseur. Elle arrive en avance, se gare sur le parking, sort de sa voiture. Elle se demande à quoi il ressemble, ce qu'elle va ressentir. Elle allume une cigarette au bord de l'évanouissement. Tout autour, un monde fou se presse en poussant des caddies.
Et là, je le vois arriver. J'ai l'impression de voir le visage du petit Louis qui se superpose au Louis de maintenant. C'est pas du tout le même, il a les cheveux longs, il a une barbe. Il a pas du tout le même style qu'il avait, mais en même temps, son visage, il n'a pas changé, quoi. Je vois vraiment dans ses yeux, ouais, son regard, ses traits. C'est Louis. Il se gare à côté de moi, il sort de sa voiture et là, il ouvre juste grand les bras. Et il me prend dans ses bras. Et donc, je ne sais pas combien de temps il se passe, mais juste, on ne parle pas. Et il me prend dans ses bras exactement comme je l'avais demandé, quoi. Donc, j'ai senti qu'il y avait de son côté aussi... beaucoup plus que ce qu'il voulait dire, que c'était pas juste un rendez-vous amical qu'on était en train de faire, c'était vraiment une possibilité d'une histoire qui se dessinait entre nous, vraiment.
Ils se rendent ensuite dans un bar. Elle commande un café, lui un thé à la vanille. Ils reviendront ensuite dans ce bar chaque semaine, toujours à la même table, à la même heure, et où ils prendront la même chose. La dame qui tient l'établissement les sert à chaque fois, sans un mot, mais ils sentent qu'elle a tout compris. Pendant toutes ces années, elle ne leur posera pas une seule question, jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite et que le bar ferme. Mais pour l'instant, ce premier jour, Alice et Louis sont nerveux. Ils parlent sans arrêt, en se tenant la main. Alice tremble un peu. Ils sont seuls dans la salle, ou peut-être pas, mais dans leurs souvenirs, il n'y a personne d'autre. Après avoir partagé une assiette de frites, ils vont se promener dans cette ville inconnue pendant des heures. C'est bien beau tout ça, mais moi, je veux savoir quand ils vont s'embrasser.
Il devait être 14h, 15h. Et là, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu vas dire si je te dis que j'ai envie de t'embrasser ?» Et moi, je lui ai répondu que j'allais me laisser faire. Et donc, on s'est embrassé là pour la première fois sur un banc de la gare. Au moment de l'embrasser, comme c'était uniquement la deuxième femme que j'embrassais, j'ai senti quelque chose de nouveau. Et j'ai senti une sorte d'émotion différente, c'est-à-dire que j'ai senti son souffle et j'ai senti dans sa tête comme si elle disait « enfin ». Je pense qu'elle attendait ça depuis des années, depuis qu'elle était toute petite. Et j'ai entendu, même si elle ne l'a pas dit, j'ai entendu ce « enfin ». Et l'émotion a été assez décuplée, en fait, à ce moment-là. Et j'ai pas pensé du tout à autre chose qu'à ce moment-là, en fait, qu'à profiter du moment, de l'émotion, et je me suis posé des questions plus tard. Et après, on est reparti, c'était l'heure de repartir chacun chez soi, et à partir de ce moment-là, voilà, c'était le début de notre histoire.
À partir de ce jour, Alice et Louis se retrouvent une ou deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, à Château-Gontier, petite ville d'un peu plus de 10 000 habitants avec son couvent et ses ponts en pierre qui traversent la Mayenne. Je me demande s'ils prennent une chambre d'hôtel dans la journée comme le font les couples illégitimes dans les films. En réalité, ils ne l'ont même pas envisagé. Le rapprochement physique est arrivé, presque par hasard.
Une fois, on s'est vu un lundi, par exemple. Très bête, on se dit on a changé par rapport à son planning et notre bar était fermé. Du coup, on était tellement ritualisés qu'on ne savait pas quoi faire. Il pleuvait et on s'est dit, c'est pas grave, on va se mettre dans la voiture. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à de temps en temps se mettre dans notre voiture pour se faire des câlins, s'explorer aussi physiquement. C'est-à-dire toucher sa peau, toucher les parties de son corps qu'on ne peut pas forcément toucher en public. Il y avait une petite dose d'excitation aussi, le fait de faire ça sur un parking. Il y a une fois où on a été un peu plus loin que l'explorer, c'est-à-dire qu'on a fait l'amour la première fois dans ma voiture. C'était un mélange d'excitation, c'était un mélange d'angoisse, de peur, d'envie, tout ça mélangé. Et j'ai eu la même sensation qu'au premier baiser, c'est-à-dire de profiter du moment sans avoir aucune culpabilité. C'est-à-dire que j'ai pas eu du tout ressenti de culpabilité, j'ai juste ressenti un bonheur, une joie, une émotion intense.
Parlons-en justement de la culpabilité. Comment fait-on pour rentrer chez soi, auprès de sa famille, comme si de rien n'était ? Comment fait-on pour dissimuler son histoire quand on parle toute la journée et même la nuit à son amant et que son téléphone vibre sans arrêt ? À leur grande surprise, Alice et Louis n'éprouvent aucun remords. Dès les premiers instants, il a su qu'elle ne sortirait plus de sa vie. Pour la première fois de son existence, il écoute ses désirs et se sent épanoui. Alors, comme un agent secret, il se contrôle, ne laisse rien traîner, change le code de son portable. Mais 5 mois après le début de sa liaison, sa femme découvre ses journaux intimes, où il est partout question d'Alice. La première réaction de sa femme, étonnante, serre presque le cœur. Elle dit que c'est de sa faute. Elle n'a pas fait assez attention à Louis, elle se repose trop sur lui. Durant quelque temps, elle va tenter de se rapprocher et de l'aider dans les tâches quotidiennes. Mais pour lui, c'est trop tard. Sa relation avec sa femme se complique, pleine de soupçons et de non-dits. L'atmosphère est parfois pesante à la maison. Quand il est à l'extérieur, elle lui téléphone pour demander où il se trouve, d'un ton lourd de reproche. Ils n'ont pourtant jamais songé à divorcer afin de préserver l'équilibre de leurs deux fils, persuadés qu'une séparation les ferait souffrir. Mais depuis 3 ans, les choses se sont apaisées. Sa femme, elle aussi, a une liaison. Ils savent, mais n'en parlent jamais. Alice non plus ne veut pas se séparer. Il y a 6 ans, son mari, infirmier comme elle, a fait un burn-out, dont il ne s'est toujours pas remis. Depuis, il est plongé dans une profonde dépression qui l'empêche de travailler et de vivre normalement. Pour Alice, le quitter serait l'abandonner. Quand son mari lui reproche de voir un autre homme, elle lui répond que sans cet autre homme, elle se serait effondrée elle aussi. Désormais, c'est comme ça, ou rien. Son seul regret, c'est de mentir à ses filles. mais peut-être leur parlera-t-elle dans quelques années. En attendant, pour ne pas trop blesser leur conjoint, ils essayent de rester discrets. Quand ils vont se retrouver, Alice dit qu'elle voit ses copines, Louis prétend aller courir. Aujourd'hui, Louis a retrouvé un travail de technicien de laboratoire. À l'hôpital, Alice a beaucoup moins de temps de repos. Il est devenu beaucoup plus compliqué de se voir. Quelquefois, en fin de journée, ils font une heure de route pour se retrouver un instant dans la voiture, à Château-Gontier. Ils se parlent au téléphone tous les matins et tous les soirs sur le trajet entre la maison et le travail. Parfois, ils réussissent à voler une nuit, un week-end. Mais se séparer est toujours déchirant. Alice pleure, Louis, lui, s'enferme dans le silence. Alors, pour évoquer le manque et la frustration, il y a l'écriture. Depuis 9 ans, à chacun de leurs rendez-vous, ils se passent un carnet dans lequel ils notent leurs états d'âme et tout ce qui leur passe par la tête. Dans ces carnets, il y a aussi des dessins, des photos, des poèmes. Chaque année, ils en remplissent un. Ils viennent d'entamer le 10e. À l'intérieur, Louis a écrit « Plutôt une vie compliquée avec toi qu'une vie simple sans toi ». Alice, elle, y a glissé une carte routière où chaque lieu qu'ils ont visité est marqué d'un point rouge. Ils n'auront jamais d'enfants, ne vivront peut-être jamais ensemble, mais ils ont créé un monde, un univers poétique.
On s'est dit pourquoi pas sur Instagram faire des photos et écrire des petits textes. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle la photopoésie. Et donc sur Insta, on a Alice et Louis. Donc un site Insta qui nous permet de nous exprimer. Alors soit lui prend une photo et j'écris le texte, soit moi je prends une photo et il écrit le texte. Parfois on s'envoie des photos. Et un jour, il y a un texte qui sort de ça, on se le propose et on se dit « Ouais, ça te plaît, si on est d'accord, et ben on le met sur Instagram et c'est un peu notre bébé. » C'est des choses concrètes, parce qu'il y a des choses qu'on fera jamais en couple. Et ça, c'est un peu ce qui nous appartient, c'est notre couple, c'est ce qu'on crée, quoi.
Sur le profil de leur compte, Alice et Louis ont affiché leur citation préférée, signée Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
C'était « L'amour sonne toujours deux fois », deuxième épisode avec Alice et Louis, un reportage de Monica Sabolo réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Alice et Louis. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue-Sébastien.
Can I hold on to to you. Can I hold on? Can I hold on to you?
Hold on to you. Can I?